Nous allons faire donc une première lecture dans le prophète Ésaïe, au chapitre 26, et nous allons commencer par le verset 1 à 4. Je vous le lis sur mon canevas, ne s'en perd pas de temps à chercher et rechercher. Voilà. Ce jour-là, c'est peut-être maintenant, ce jour-là, on chantera ce cantique, c'est-à-dire cet hymne, au pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il a placé comme sauvegarde un mur et une forteresse. Verset 2. Ouvrez les portes, qu'ils entrent, la nation qui est juste, les païens qui croient ce que Dieu leur dit. Verset 3. D'une manière ferme, tu assures la paix parce qu'en toi, il se confie. Verset 4. Faites confiance. Placez votre confiance au Seigneur en l'Éternel pour toujours. Car l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur, le rocher de toute éternité. Amen. Le titre de ce message ce soir sera tout simplement « Cantique à la gloire de Dieu ». Chant de victoire, chant de triomphe, on est d'accord? Que Dieu soit béni. Quand Jésus nous dit « Je », c'est-à-dire Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », bien souvent nous retenons de cette phrase que les derniers mots, c'est-à-dire « vérité et vie » dans Jean au chapitre 14 et au verset 6. Or, nous n'accéderons ni à l'une, c'est-à-dire la vérité, ni à l'autre, la vie, si nous oublions les prémices, c'est-à-dire les premiers commencements, car Jésus-Christ, c'est la porte, car Jésus-Christ, c'est le médiateur. Premièrement, le « je », c'est-à-dire ce pronom personnel, Jésus ne le partage pas. Personne d'autre que lui, Jésus, ne peut nous sortir d'affaire. Et il insiste en disant, je vous le lis, « Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne verra le Père que par moi. » Donc, Christ est la porte, Christ est l'accès à la présence de Dieu. D'ailleurs, Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, dit « Je, le Seigneur, me tiens à la porte et je, encore le Seigneur, je frappe. » Deuxièmement, je dirais que le Seigneur ne possède pas la vérité et la vie. Et pourquoi? Parce qu'il est tout simplement la vérité et la vie. Je suis la vérité, je suis la vie. Troisièmement, le chemin pour trouver le sens de l'existence passe par ce chemin que Dieu trace tout simplement en Jésus-Christ. Il nous faut donc passer par lui. Il nous faut passer donc par Jésus-Christ. Jean d'ailleurs, au chapitre 14, dit « Le chemin... » Jésus dit, c'est moi, je suis le chemin. Donc, le projet de Dieu se situe tout simplement en Jésus-Christ, c'est-à-dire le dessein, c'est-à-dire le but, soit le projet de Dieu, se situe en notre Seigneur Jésus-Christ. Pour comprendre ce texte, mes bien-aimés, que nous venons de lire, il faut y lire Jésus-Christ, sinon notre raison a du mal à suivre. C'est-à-dire que lorsqu'on lit l'Éternel dans ce passage d'Ésaïe, chapitre 26, il faut le transposer en Jésus-Christ. Le verset 1 et le verset 2 ne vont pas ensemble, vous l'avez peut-être remarqué. Pourquoi, mes bien-aimés, faire un mur? Pourquoi faire une muraille? Pourquoi faire un rempart, un double mur? pour finalement ouvrir les portes. Cela peut paraître un non-sens, cela peut paraître contradictoire. La seule et unique réponse envisageable à considérer, c'est que contrairement à notre logique, ouverture et vérité ne s'opposent pas. Ouverture et vérité vont ensemble. Autant la vérité de la parole de Dieu est solide et éternelle, autant le chemin qui mène du monde au royaume de Dieu, nous est-il dit, est ouvert. Je vous le lis dans Hébreux, chapitre 10, verset 20. Jésus a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le voile, c'est-à-dire à travers le sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps, dans la présence même de Dieu. Premièrement, donc, il nous est dit, le chemin ou le sentier, selon les traductions du juste, va tout droit. Versets 7 à 10. Verset 7, je vous le lis. Le chemin du juste va tout droit, ou bien droit. Et tu aplanis, ou tu traces, selon les traductions, la voie droite du juste. Sur le chemin que tracent tes lois ou tes sentences, nous espérons en toi. Et là, admettons, Seigneur, l'objet de nos désirs, et de redire ton nom. Pendant la nuit, vers toi, mon âme aspire. Mon esprit, au-dedans de moi, te cherche au matin. Quand tes sentences s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Verset 10. Mais si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice au pays de la droiture ou sur la terre du bien, d'où dès la version se meurt, il fait le mal et il ne voit pas ta majesté, ô éternel, que nous transposons en ô Seigneur. Amen. L'ouverture et la justice ne sont non pas seulement opposées, mais elles marchent ensemble. Ouverture et justice, donc, vont de pair, j'oserais dire. La personne ouverte de l'esprit, entre guillemets, est celle qui croit que la vérité de son projet n'a pas besoin d'armes offensives pour gagner. La vérité et la justice du Seigneur triomphent du mensonge et de l'intérêt. Verset 10. Le Seigneur est le pédagogue. Qu'est-ce qu'un pédagogue ? C'est celui qui instruit et élève ses enfants. C'est pour nous. Et nous sommes ses enfants. C'est ce que Dieu désire. Parce que Dieu, c'est le conducteur divin, donc c'est le pédagogue, c'est le père donc de chacun d'entre nous. Son objectif, mes bien-aimés, ce n'est pas de punir, mais c'est d'instruire, c'est de nous instruire. Ésaïe 48, verset 17. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit. » Et je t'instruis pour ton profit. Amen. Le chemin et le comportement, donc, comme nous l'avons vu, est un seul mot, et même un mot en hébreu. La vie est comparée à un parcours, c'est-à-dire avec un départ, avec une arrivée, et entre les deux, des étapes. Comme par exemple le Tour de France que vous avez pu peut-être suivre à la télévision. Départ, arrivée, étape, voilà le parcours du chrétien. Et il nous est dit que ce parcours est droit. Il nous est dit que la voie du juste, faudrait-il la transposer ? Premièrement, que cette justice désigne autant la cohérence de la personne, c'est-à-dire l'ensemble des idées de la personne, de la logique de la personne, que son sens moral. Je dirais aussi le contraire d'être perdu, vous le savez, c'est le salut. Mais n'a-t-on pas oublié le premier sens de ce mot? Quand on parle de salut, mes bien-aimés, nous sommes beaucoup plus abstraits que ne l'étaient les Juifs. Être perdu, premièrement, c'est peut-être avoir perdu le sens, autant, je dirais, rationnel, autant que moral, c'est-à-dire avoir perdu le sens de la raison. L'objet de désir du juste n'est pas sa situation, c'est-à-dire une grande maison, une voiture avec laquelle il se conduit, mais c'est la rencontre avec Dieu. Ici, la rencontre avec son Seigneur. D'ailleurs, le psaume 59 et le verset 5 nous dit « Réveille-toi, viens à ma rencontre, réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde-moi, dit le Seigneur. » Quand nous parcourons ce chemin, mes bien-aimés, c'est pour quoi faire ? C'est pour rencontrer quelqu'un, tout simplement. C'est la rencontre espérée, la teinte de la maison du Seigneur. Voilà ce que c'est. Quand nous parcourons notre chemin, c'est pour rencontrer la maison du Seigneur, c'est pour rencontrer la maison du Père. Pour le croyant, c'est-à-dire pour nous, ce sentier ou ce chemin, selon la traduction, il a deux raisons. Au verset 8, premièrement, à qui l'on peut se fier, c'est-à-dire qui n'offre donc aucun enjeu. Il nous est dit que ce chemin est tracé premièrement par le Seigneur, c'est-à-dire par le Créateur. Et deuxièmement, que ce chemin conduit donc vers le Seigneur, c'est-à-dire vers le Sauveur. Nous l'avons vu tout à l'heure dans Hébreux au chapitre 10 et au verset 20, mais je vous le relis. Jésus nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau, un chemin vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Cette justice, mes bien-aimés, n'est pas interne, c'est-à-dire elle n'est pas privée, mais le chemin a montré et a démontré, c'est la vérité à proclamer, c'est tout simplement la vie à vivre. Premièrement, ce contrat que nous avons passé avec le Seigneur, c'est-à-dire cette convention que nous avons passée entre Dieu et nous, n'est pas conçu par nous, ce contrat, mais nous pouvons le signer, ce contrat. Le signer, c'est nous diriger tout simplement vers la terre promise, vers la Canaan céleste, vers la Jérusalem céleste, mais aussi de passer également par des épreuves, par des difficultés et par un désert, comme nous le savons. Le passage de l'esclavage à la liberté est un chemin difficile. C'est vrai que le chemin du chrétien n'est pas toujours un chemin facile, mais c'est par contre un chemin prometteur. Je vous le lis dans Romains 8, 21. Avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu que nous connaîtrons dans la gloire. Amen. C'est une merveilleuse promesse. Deuxièmement, nous passons à la vérité comme position en face de Dieu. Verset 11 à verset 13 d'Ésaïe 26. Verset 11. Nous transposons. Ta main est levée, Seigneur, pour juger, et ils ne la voient pas. Mais ils verront ton zèle, ta passion pour le peuple, et ils seront confondus, ils seront confus, ils seront dévorés, ils seront consumés par le feu destiné à tes ennemis. Verset 12. Seigneur, tu nous donnes la paix. C'est toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Verset 13. Seigneur d'autres dieux, d'autres seigneurs, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est ton nom seul que nous louons. Amen. C'est ton nom seul que nous louons. Un seul Dieu, nous est-il dit, nous avons un seul Dieu. Amen. plusieurs mots sont importants dans ce passage. Il y a les trois lettres P. Alors la première lettre P, c'est la passion. La traduction, je dirais, est beaucoup trop pudique. On pourrait aussi penser qu'il s'agirait du désir d'un homme pour une femme, ou vice-versa. La seule traduction possible, c'est la passion amoureuse, entre guillemets, avec tout son répertoire d'émotions dans le monde, jalousie, jalousie possessive, mais aussi prévenant et attentif. Et verset 11, il est dit, « Ils verront comment tu prends à cœur la cause de ton peuple. » Le Seigneur prend à cœur notre cause. Cette passion, malheureusement, chez l'humain, est souvent mobile et parfois de débordement et pouvoir même aller à l'extrême jusqu'au crime. Par contre, cette passion chez Dieu, l'apôtre Paul l'appellera la folie de Dieu, c'est-à-dire la folie de Dieu en Jésus-Christ. Et tout le monde connaît 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Je vous le lis. Il est dit « La prédication ou le langage ou la parole de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous qui sommes en train d'être sauvés, elle est puissance de Dieu. » Amen. Elle est puissance de Dieu. Dieu veut tellement se présenter à l'humain qu'il se fait homme. Dieu s'est fait homme pour nous. Dieu aime tellement l'humain qu'il va même en mourir. Et d'ailleurs, le texte d'Ésaïe 26 nous porte même au seuil, j'oserais dire, de l'Évangile, au seuil du sacrifice de Jésus. Hébreux chapitre 2, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme, c'est-à-dire comme nous. Le deuxième P, la deuxième lettre P, c'est la paix, P-A-I-X, fruit de l'esprit, amour, joie, paix, troisième fruit de l'esprit. Et on retrouve le même paradoxe qu'au verset 1 et 2. La passion et la paix ne vont pas ensemble, sauf en Jésus-Christ. C'est là le contexte, verset 12. La paix est cette situation, je dirais, de plénitude, d'équilibre personnel qui provoque une sérénité collective et non l'inverse. La paix du Seigneur ne ressemble pas à la Pax Romana, entre guillemets, qui consiste à atteindre une paix civile en étouffant tout conflit à la base, rien à voir avec la diplomatie. Colossiens chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Version Semeur, j'aime bien. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. C'est important. Parole vivante. Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix donnée par Christ. Je trouve ce verset merveilleux. Le Seigneur, mes bien-aimés, nous donne les moyens pour devenir ce que nous sommes. Et qu'est-ce que nous sommes? Eh bien, nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses enfants. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ses témoins. Nous sommes ses disciples. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes ses ministres, nous sommes ses serviteurs, mais aussi, surtout, nous sommes les esclaves de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne tous ses moyens pour devenir donc ce que je viens de vous énumérer et non pour posséder tout ce que nous désirons, nous. La seule manière d'échapper à la mort, c'est quoi? C'est de recevoir la vie éternelle. Timothée nous dit, saisis la vie éternelle. Il nous dit, empare-toi de la vie éternelle. C'est même de la violence. Empare-toi de la vie éternelle. La seule manière de vivre sans Dieu consiste à fuir la mort dans les loisirs, dans les plaisirs, et avoir pour fin la condamnation et la mort éternelle. La troisième lettre P, c'est la position du croyant. C'est au nom de Jésus-Christ que nous vivons, nous était dit au verset 13, c'est-à-dire au nom de l'Éternel transposé en Jésus-Christ. C'est toi seul, nous est-il dit, que nous louons, toi seul. Nous ne sommes pas soumis au Seigneur comme nous serions soumis à un ennemi. Nous nous soumettons au Seigneur par la foi, tout simplement. C'est-à-dire ce mixage de passion, ce mixage de paix qui nous positionne comme soumis au Seigneur. Apôtre Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Nous regardons clairement, mes bien-aimés, vers la cité que le Seigneur nous prépare. Eh oui, il nous prépare une cité merveilleuse. Et nous cherchons donc librement à révéler ce chemin à tous ceux qui, au lieu d'espérer en la vie éternelle, fuient dans les loisirs, dans les fêtes, dans la possession des biens matériels, dans les plaisirs de la chair, dans la volupté, dans la jouissance donc charnelle. Notre identité de chrétien ne se fondait pas sur une existence dans laquelle tous nos désirs seraient accomplis, pas du tout, mais dans un projet dans lequel tout notre potentiel est réalisé, c'est-à-dire toute notre force, toute cette puissance qui est en nous. Bien-aimés, ces trois lettres P sont basées sur une certitude. L'initiative appartient au Seigneur, pas à nous. Les Baals et les dieux cananéens vivaient comme les ours, au rythme des saisons. Et même dans certaines religions, encore aujourd'hui, on sort les saints, on sort les reliques, pendant certaines fêtes, et on leur fait prendre l'air. Les Baals, ils hibernaient l'hiver pour paraître aux fêtes du printemps. Il y avait le dieu de la fertilité. Ils sont donc les dieux de la séduction, les dieux de l'érotisme, les dieux de la possession, les dieux de la consommation. Comme aujourd'hui, rien n'a changé. Le Seigneur ne séduit pas son peuple. Il le choisit. Amen. Le Seigneur nous a choisis. Pourquoi ? Parce que son amour est exclusif. Parce que son amour est intime. Car Dieu, nous dit la Bible, vous a choisi dès le commencement. Dieu nous a choisi, nous a-t-il dit, pour que vous soyez les premiers à être sauvés. 2 Thessaloniciens 2:13. Pour que vous soyez les premiers à être sauvés. Quel honneur, quel amour, quelle grâce. Au fantasme du pouvoir, au fantasme de la domination Baal, le prophète propose un imaginaire dans lequel on ne sacrifie pas l'individu à la collectivité. En plaçant le Seigneur, mes bien-aimés, au centre de notre vie, je dis bien, au centre de notre vie, sa puissance et sa présence, nous éviterons les impasses, ces impasses que nous propose les dieux politiques, les dieux économiques et les dieux scientifiques de ce monde. Troisièmement, la vie nouvelle pour une nouvelle relation, à partir du verset 14 au chapitre 26, partie du verset 14. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés et tu les as exterminés, et tu en as détruit tout souvenir. Verset 15. Tu as fait grandir la nation, ô Éternel, c'est-à-dire Seigneur, tu as fait grandir la nation, tu as montré ta gloire, tu as fait reculer toutes les frontières du pays. Verset 16, Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Quand tu sévis, on se répand en prière. Verset 17, nous avons été devant toi, Seigneur, comme une femme enceinte près d'enfanter qui se tord et crie dans les douleurs. Verset 18, nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais c'est comme si nous avions enfanté du vent. Nous n'apportons pas le salut à la terre, ni au monde des nouveaux habitants. Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront. Réveillez-vous, nous a-t-il dit, c'est la vigilance. Réveillez-vous, criez de joie, vous qui demeurez dans la poussière. Car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre des trépassés rendra le jour. Verset 20, va mon peuple, rentre chez toi et ferme sur toi les deux battants. Cache-toi un instant, le temps que passe la colère, le temps que passe la fureur. Verset 21, car voici le Seigneur ou l'Éternel qui sort de sa demeure pour demander compte des crimes aux habitants de la terre, et la version Sommer dit, pour faire payer leurs péchés aux habitants du monde. Il y a donc châtiment, il y a révélation et jour du Seigneur dans ce passage. Bien-aimés, comme vous le savez, la mort est la dernière impasse, ou le chemin qui mène à la vie, on est d'accord, à part qu'on soit enlevé, bien entendu, verset 14 et verset 19. Deuxièmement, la fécondité de la vérité, c'est contraire à la stérilité des illusions. Regardez le verset 15 et 17, ce qui est vain, ce qui est inutile, ce qui est sans résultat, mieux vaut souffrir pour être fécond que fuir les problèmes et passer à côté de la vie. L'humain a ceci d'étrange. L'humain préfère l'illusion. L'humain préfère l'imaginaire à l'existence et à la réalisation de soi. C'est vraiment étrange. Troisièmement, la présence de Dieu. C'est quoi ? La présence de Dieu, mes bien-aimés, c'est la vie pour certains. C'est la vie éternelle pour certains. La présence de Dieu, c'est aussi la mort pour d'autres, c'est-à-dire la mort éternelle. Son amour et sa justice se révèlent dans sa présence. Et vous le regarderez bien, verset 9 pour ceux qui notent, 16, 20, 21. Le juste, nous, car nous sommes justifiés par Dieu, il ne craint pas la présence du Seigneur. Actes au chapitre 2, au verset 28, nous dit « Tu me rempliras de bonheur par ta présence. » Tu me rempliras de bonheur par ta présence. Au contraire, il la recherche, cette présence. La passion de Dieu, ce plaisir, ce désir intense qu'on ressent pour Dieu nous donne la joie et nous donne également une position soutenable. Nous rentrons à la conclusion de ce message. Le Seigneur, en choisissant Jésus-Christ, c'est-à-dire le Seigneur Dieu, Père, en choisissant Jésus-Christ, puis nous, comme ses enfants, il évite au monde, premièrement, l'impasse, c'est-à-dire une situation sans issue, sans espoir, une situation sans recours. Deuxièmement, il évite au monde l'illusion d'un faux espoir, je dirais, chimérique, véhiculé par les chimères de ce monde, par l'illusion de ce monde. Troisièmement, il évite au monde la mort. Il évite donc la mort éternelle, dans les ténèbres, loin de la présence de Dieu, car Jésus a réduit à l'impuissance la mort, nous était dit dans l'épître à Timothée. Mais bien aimé, si nous plaçons Jésus au cœur de nos relations, de notre identité et de notre espérance, il ouvrira nos chemins, rendra clair notre confusion. Notre esprit va devenir clair, il va tout comprendre, il va ouvrir pour nous des perspectives nouvelles, c'est-à-dire il va ouvrir pour nous des espérances nouvelles à nos existences, que son nom soit béni. Je termine par deux versets hébreux. Chapitre 6, verset 19. Cette espérance éternelle, nous l'avons comme une ancre solide et ferme et sûre pour notre âme. Le deuxième verset, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 21. Que votre foi et votre espérance soient en Dieu, soient tournées en Dieu. Et parole vivante nous dit que votre foi et votre espérance soient fondées sur Dieu. Je prends le commentaire de parole vivante, je l'ai transposé et je vous le lis pour terminer. Voilà pourquoi votre foi est aussi espérance en Dieu. Jésus n'est pas seulement l'agneau de Dieu qui a porté les péchés de tous ceux qui croient en lui, ça c'est nous. En le ressuscitant des morts, Dieu a également ouvert pour eux la porte de l'espérance. Dieu a ouvert pour nous la porte de l'espérance. Et je vous garde le meilleur pour la fin. Et là, je veux voir si vous dormez ou pas. Ils mourront. Je vous dormais. Ils ressusciteront. Amen. Et partageront sa gloire. Amen. Ils ressusciteront et partageront sa gloire. Que son nom soit glorifié. Amen. Que Dieu soit béni. C'est bon, je vous le répète une fois de plus, ça fait rien, je ne vous le redirai plus. Mais c'est bon d'avoir en face de moi des visages qui respirent la jeunesse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est le futur. Ce n'est pas les cheveux blancs, mais tant qu'on peut, le Seigneur se sert de nous, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié pour cela. Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer et te rendre grâce pour cette église de Toulouse-Ouest, pour ces jeunes, pour ces moins jeunes, pour ces anciens, pour ces cheveux blancs, que ce soit les uns ou les autres. Seigneur, nous t'aimons d'un amour ardent. Et Seigneur, nous te glorifions parce que tu nous as ouvert, tu nous as tracé un chemin. Et nous savons que ce chemin, il nous conduit vers la vie éternelle, vers la Canaan céleste, vers la Jérusalem céleste. Seigneur, que nous puissions garder notre foi, notre confiance en toi, Père céleste, jusqu'au jour que tu as choisi, où tu nous introduiras dans ton royaume de gloire. Amen. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen.